100% d'Europe, Juliette Rangeval.
Wir haben ja das deutsche Sprichwort.
Bonjour, qui va succéder à Angela Merkel à 5 jours du scrutin? L'Allemagne s'interroge, l'Europe aussi. Après 16 années de vie politique dominée par la chancelière allemande, la campagne pour les législatives a été assez terne. Le social-démocrate Olaf Scholz fait la course en tête dans les sondages. L'engouement pour Annalena Baerbock, la candidate des Verts, a semblé s'essouffler. Quant à Armin Laschet, le dauphin d'Angela Merkel, candidat des conservateurs de la CDU, il a eu toutes les peines du monde à s'imposer dans un parti englué dans les querelles de personnes et incapable de se moderniser. Carnet de campagne, signé Julien Méchaussy.
Place du marché de Worms au sud de Francfort, à la fois centre industriel et réputé pour son vin local, la petite ville accueille Olaf Scholz dans la dernière ligne droite de la campagne. Le candidat du SPD vient de dépasser la barre des 25% dans les sondages. L'actuel ministre des Finances fait de plus en plus figure de favori, avec derrière lui un parti enfin uni, comme le confirme large sourire aux lèvres Christian Wertke, dirigeant d'une section locale du SPD.
Nous avons traversé de grosses zones de turbulence ces dernières années, avec de nombreux changements à la tête du parti. Aujourd'hui, tout le monde est tourné vers le même objectif. Et oui, c'est une campagne où nous prenons du plaisir. Quand je suis entré dans le parti, nous étions à 40% législative. Nous ne reviendrons jamais à de tels scores, mais je retrouve l'ambiance de cette époque avec un parti uni et déterminé, même si nous sommes dépendants d'un ou deux partenaires de coalition. Si cela se fait avec le SPD à la chancellerie, ça me conviendra parfaitement.
Inespéré, il y a encore quelques mois, Olaf Scholz a réussi à réconcilier l'aile gauche et l'aile droite du SPD. Non pas grâce à sa personnalité, mais avec un programme adoubé par la base du parti. Salaire minimum de 12 euros de l'heure, pas de relèvement d'âge de départ à la retraite, voilà pour les mesures sociales les plus fortes. Et les gages accordés par un candidat jusqu'ici très libéral sur les questions économiques. Dans un pays qui déteste les changements brutaux, Olaf Scholz est contraint au grand écart permanent. Alors il fait tout pour tenir son parti uni. Il joue en même temps de sa personnalité, selon lui proche d'Angela Merkel, pour profiter de la popularité de cette dernière. Sans oublier la posture du chancelier pour la protection du climat, comme l'affirme l'une de ses affiches de campagne sur fond rouge vif. Si l'Europe et la politique étrangère sont totalement absentes de cette campagne, les enjeux climatiques dominent les débats. Sur la place de l'ancien marché au grain de Nuremberg, Sacha Müller révise ses fiches. Annalena Baerbock, la candidate écologiste, est attendue dans quelques minutes pour prendre la parole devant un bon millier de personnes. Sur ses terres conservatrices, Sacha Müller a de bonnes chances d'être élue au Bundestag. Même en Bavière, les Verts représentent désormais la deuxième force politique.
Je remarque quelque chose de nouveau dans cette campagne, une énorme curiosité pour notre parti et notre programme. Cela ne veut pas automatiquement dire que cette curiosité va se transformer en vote, mais les Allemands se posent une question qui n'a pas existé pendant des années puisque tout le monde savait que Merkel allait rester à la chancellerie. Cette question, c'est qui après Merkel? Il ne nous reste plus qu'à les convaincre que ce soit Annalena Baerbock.
Célébrée au printemps et portée par la question climatique, Annalena Baerbock se voyait déjà succéder à Angela Merkel. Mais un CV gonflé, une histoire de plagiat et une bourse d'études trop généreuse ont plombé la campagne. Affairée autour d'un vélo électrique qui apporte des tracts, Xenia Mohr est amère. Cette responsable locale écologiste de Nuremberg regrette ces polémiques qui ont relégué le programme à l'arrière-plan.
Ça peut paraître démodé, mais Annalena est incroyablement assidue. Elle travaille énormément. Elle est toujours bien préparée. C'est l'une de ses grandes forces. Et c'est pour ça que je crois en elle en tant que chancelière. Elle est en mesure de comprendre de nombreux sujets dans toute leur complexité. Même si j'aurais souhaité à certains moments plus d'offensive, notamment lors de toutes ces petites polémiques, mais répondre à des attaques personnel est très difficile. Le fil est toujours très mince entre répondre de manière constructive et tombée dans le jeu de la provocation. Elle a décidé de rester sur la défensive. C'est son choix. Aujourd'hui, c'est oublié tout ça.
Reste ouvert une possible coalition avec le SPD, celle souhaitée publiquement par Scholz et Baerbock. Car plus personne ne semble envisager une coalition avec la CDU. Son candidat Armin Laschet est dépassé par les querelles de partis cachées sous le tapis jusqu'ici grâce à la consensuelle Angela Merkel. À Trossingen, petite commune de la Forêt-Noire, on vote sans discontinuer CDU depuis 1949. Otto Wulff, président du groupe des seniors du parti, 50 000 membres, reçoit dans la Maison de la Culture. Une vingtaine de retraités sont venus voir le vieux sage de 88 ans. Trossingen fait partie des 31 étapes de campagne d'Otto Wulff. Toutes les conditions paraissent réunies pour une agréable fin d'après-midi. Pourtant, l'ambiance est tendue. Les électeurs fidèles sentent la défaite venir d'un parti incapable de se moderniser. Après Merkel.
Il y a toujours eu des divergences au sein de la CDU. Vous savez, durant les 16 années de Merkel à la chancellerie, tout le monde n'était pas toujours content dans nos rangs. Ça fait partie de la vie d'un grand parti, vous voyez. Nous avons des courants, des ailes. Les uns sont plus libéraux sur le plan économique. Il y a des jeunes et des vieux. Eh bien, un grand parti se doit de représenter tous ces courants. C'est un art complexe qui constitue pourtant la clé du succès.
Un art que maîtrisait à merveille Angela Merkel. Un art appliqué non seulement dans son parti, mais aussi dans l'ensemble de la politique allemande.
Seule certitude du scrutin de dimanche, Angela Merkel s'en va. La femme la plus puissante du monde que les Allemands surnomment Mutti. Ça veut dire maman en allemand. C'est un sobriquet un peu étonnant, surtout quand on sait que la chancelière n'a pas d'enfant. C'est la chronique en un mot de Déborah Berlioz.
Si les Allemands entendent le mot Mutti, la plupart vont réagir comme Nils.
Quand on me dit Mutti, je pense à Angela Merkel et pas à ma maman, sans doute parce que j'appelle ma maman Mama et pas Mutti. C'est sûrement le surnom le plus répandu d'Angela Merkel, peut-être parce qu'elle est une sorte de maman pour notre génération.
Âgée de 21 ans, il ne peut en effet pas se rappeler quelqu'un d'autre qu'Angela Merkel à la tête du pays. Et s'il n'appelle pas sa maman Mutti, c'est parce que ce petit nom affectueux a quelque chose de désuet. On l'entendait surtout dans l'Allemagne de l'Est avant la réunification. Quand on sait qu'Angela Merkel est née dans l'ancienne dictature communiste, cela fait sens. Pourtant, à l'origine, ce sobriquet n'avait rien de très gentil. La légende veut qu'il ait été lancé la première fois en 2008 par le ministre de l'économie de l'époque, le conservateur Michael Gloss. Et il paraît qu'il ne fallait surtout pas le prononcer en présence d'Angela Merkel. Pour Inès Kappert, chercheuse et autrice féministe, ce surnom servait surtout à exprimer un manque de respect face au pouvoir de la chancelière.
Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'ils sont coincés? Angela Merkel fait gagner son parti, la CDU, et eux, ils ne trouvent rien de mieux à faire que de la rabaisser, de la réduire à la seule forme de pouvoir féminin qu'ils connaissent, c'est-à-dire leur mère. Ensuite, ils utilisent cette image contre leur adversaire politique. C'est tellement limité.
Le terme serait donc dévalorisant, méprisant. D'ailleurs, il a été largement repris par les adversaires politiques de la chancelière. En 2015, après l'annonce de Merkel de ne pas fermer les frontières aux réfugiés, les manifestations de l'extrême droite se multiplient. Dans les cortèges, on peut lire « Mutti muss weg »,« Mutti doit partir », ou encore « Mutti multiculti », »,« Mutti multiculturel », écrit sous un photomontage qui montre la chancelière avec un foulard islamique. Ces images ont choqué Gabi Zekina à l'époque. Pourtant, la présidente de l'association d'aide aux femmes, Frauenkreise, ne déteste pas ce surnom.
Moi, j'aime bien ce surnom de Mutti, car on rend Merkel toujours responsable de tout. Or, les discriminations que l'on vit en tant que mère sont encore pires que toutes les discriminations, surtout si on est mère célibataire. Peu importe ce qui se passe, la mère est toujours coupable. Donc, je trouve que ce surnom lui va bien. C'est un peu une sorte de titre honorifique.
Et c'est loin d'être son pire qualificatif, selon Gabi. Le mentor d'Angela Merkel, le chancelier Helmut Kohl, l'appelait Das Mädchen, la jeune fille ou la gamine. Si le nom est affectueux, il est aussi révélateur de l'image des femmes au sein du parti conservateur. Sous-estimée par ses collègues, la gamine finira pourtant par profiter du scandale des caisses noires de la CDU pour renverser Helmut Kohl en 1999. Quant au petit nom de Mutti, il a fini par devenir positif. Lena, 19 ans, est ici assez représentative de l'opinion d'une grande partie des Allemands.
C'est une image d'elle très répandue et qui passe bien avec son style de gouvernement. Le fait d'essayer de convaincre tout le monde, tenter un peu de rendre justice à tous, mais aussi de veiller sur les autres, de s'en occuper.
Il faut dire qu'Angela Merkel a tenu la barre de son pays pendant de nombreuses crises. La crise financière de 2008, suivie par celle de l'euro, l'arrivée massive de réfugiés en 2015, la pandémie de Covid-19, elle les a gérés dans le calme, de manière pragmatique, et le pays s'en est sorti. Mouti est donc devenue la mère de la nation, en quelque sorte, celle qui incarne la stabilité quand tout va de travers. Le sobriquet fait aussi référence à sa simplicité, à son train de vie très modeste. Ayant toujours refusé d'habiter la chancellerie, Angela Merkel habite dans un appartement tout simple et à peine surveillé, et on peut l'apercevoir le vendredi soir faire ses courses au supermarché du coin. Mais évidemment, Angela Merkel n'a pas réussi un sans-faute en 16 années de pouvoir. Par exemple, elle n'a pas fait assez pour lutter contre le réchauffement climatique. C'est justement ce que lui reproche Sophia. Et pour cette raison, la jeune femme n'aime pas ce surnom de Mouti.
Je le trouve incroyablement perfide, car des parents sont censés tout faire pour que leurs enfants aillent bien à l'avenir. Et je n'ai pas l'impression que quelqu'un se soit occupé de mon futur et que je puisse dire « Ok, je peux m'investir dans cette société et dans 10 ans, j'aurai encore de l'eau potable et je vivrai en paix ».
Malgré tout, Angela Merkel reste très populaire. Selon un récent sondage, 75% des Allemands jugent son bilan positivement. Une large majorité la juge d'ailleurs compétente, crédible et même sympathique. Mais Mouti se retire de la vie politique et elle risque de manquer à beaucoup de ses concitoyens.
Avec la fin de l'ère Merkel, c'est toute l'Allemagne qui change d'époque et cela a des conséquences aussi en Europe, en Hongrie notamment. Bonjour Florence Labruyère.
Bonjour.
On vous retrouve à Budapest. Alors, est-ce que Merkel et Orban s'entendaient bien? Est-ce que c'était une relation qui fonctionnait?
Oui, tout à fait. Et c'est avant tout parce qu'il y a eu une bonne relation dès le départ entre la CDU et le Fidesz, le parti d'Orban. Et cela grâce à l'ancien chancelier allemand Helmut Kohl. Lorsque Orban a fait de son parti un mouvement conservateur de droite en 1993, c'est Helmut Kohl qui lui a servi de mentor, qui lui a donné des conseils, et c'est la CDU qui a servi de modèle à Orban.
Oui, mais plus tard, Viktor Orban est devenu un souverainiste. Il s'est éloigné de la démocratie chrétienne à l'allemande.
Oui, c'est vrai. Avec le temps, le Fidesz d'Orban est devenu un mouvement souverainiste, xénophobe, anti-Rome, finalement plus proche idéologiquement de l'AFD, l'extrême droite allemande, que de la CDU. Mais Angela Merkel a toujours soutenu son homologue hongrois. Certains commentateurs ont d'ailleurs souligné l'hypocrisie de la CDU et de la chancelière allemande qui consistait à rejeter l'AFD tout en coopérant avec le Fidesz.
Alors comment expliquer cette fidélité d'Angela Merkel à Viktor Orban?
Eh bien tout d'abord, l'histoire joue un grand rôle, hein, puisque la Hongrie fait partie de la sphère germanique depuis des siècles. Et puis si Angela Merkel n'a pas voulu exclure Viktor Orban du PPE, le groupe conservateur du Parlement européen, c'est parce qu'elle préférait le garder dans la famille des conservateurs. Elle pensait qu'on pourrait ainsi mieux contrôler Orban. Mais ce sont surtout les intérêts économiques qui ont primé. Non seulement l'Allemagne a toujours été le premier partenaire commercial de la Hongrie, mais le gouvernement Orban a accordé d'énormes avantages fiscaux aux grands producteurs automobiles, Audi, Mercedes, Daimler, qui se sont installés en Hongrie. Le gouvernement hongrois a aussi fait voter une loi esclavagiste, très défavorable aux salariés hongrois, une loi qui était un véritable cadeau, hein, aux entreprises allemandes. En fait, Orban s'est acheté de l'influence. En déroulant le tapis rouge aux entreprises allemandes, Orban s'est forgé un bouclier contre d'éventuelles attaques politiques de Berlin. Un journal d'investigation hongrois a ainsi révélé qu'un grand industriel allemand s'était vanté dans une soirée d'avoir le numéro de portable du ministre hongrois des Affaires étrangères et de parler directement à Orban quand il le voulait. Ces entrepreneurs allemands auraient fait pression sur Angela Merkel pour qu'elle s'abstienne de trop critiquer le chef du gouvernement hongrois. Et cela a été d'autant plus facile que, selon un ancien diplomate hongrois, il y a un consensus en Allemagne sur le fait que la Hongrie est un petit pays, périphérique, peu important. Et selon ce diplomate, ce n'est pas seulement Angela Merkel, mais toute l'Allemagne qui porte une part de responsabilité dans l'effondrement de la démocratie en Hongrie.
Merci Florence, à bientôt.
I love you more than ever, more than time and more than love. I love you more than money and more than the stars above. I love you more than...
Aujourd'hui en Suisse, seuls un homme et une femme peuvent se marier. Les couples de même sexe ont seulement la possibilité de conclure un partenariat enregistré. Mais cela devrait changer ce dimanche puisque les Suisses sont appelés aux urnes pour dire s'ils acceptent les unions civiles des couples homosexuels. La question agite toute la société, y compris dans le clergé. Si l'Église catholique fait campagne contre le mariage pour tous, les protestants disent oui, tout comme l'Église catholique chrétienne qui va encore plus loin puisqu'elle vient d'autoriser le mariage pour tous, religieux celui-là. Reportage à Genève de Jérémy Lange.
Assez jeune, j'ai eu l'impression que être religieuse et être lesbienne, ça ne va pas ensemble. Donc je me suis dit, si tu veux continuer ton chemin, il faut que tu trouves une église dans laquelle tu te sens bien et accueilli.
Stéphanie Arnold est diacre dans l'Église catholique chrétienne, la plus petite des églises officiellement reconnues par la Suisse, la plus progressiste également. Les prêtres ne sont pas obligés d'être célibataires, les divorcés peuvent s'y remarier et les femmes, comme Stéphanie Arnold, peuvent accéder à la prêtrise. Homosexuelle, elle est donc doublement concernée par le vote de dimanche, puisqu'elle pourrait devenir l'une des premières religieuses lesbiennes et mariées de Suisse, mais aussi, en tant que diacre, célébrer un mariage entre deux personnes de même sexe. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut s'attendre à un afflux de mariages dans les prochaines semaines.
J'ai beaucoup d'amis qui sont en couple et pour la plupart, c'est pas vraiment quelque chose qu'ils ont réfléchi jusqu'à maintenant. Parce que quand moi j'avais 15 ans, que j'avais mon coming out, j'avais pas pensé à me marier. C'était pas possible. Voilà. Donc je pense qu'au moment où c'est voté oui, pour beaucoup de gens, c'est le début de la réflexion qui va prendre place. La première fois à faire l'expérience de marier un couple du même sexe, ça va être très touchant pour moi aussi, je suis sûre.
Lecture de l'évangile de Matthieu au chapitre 2, les versets 1 à 12. Jésus était né à Bethléem en Judée au temps du roi Hérode le Grand.
Jean Lannoy a déjà été contacté par un couple de femmes qui souhaitent se marier. Ce mariage, le curé de la paroisse catholique chrétienne de Genève l'attend avec impatience. Une impatience mêlée d'une certaine appréhension puisqu'il va lui falloir adapter un rite aujourd'hui dépassé.
L'idée, c'est d'apporter quand même quelque chose qui corresponde aux personnes. Donc, quand on a un rituel qui est fondé sur un modèle patriarcal, il faut en changer. Il y a des mots qui ne peuvent plus être utilisés parce qu'ils ne correspondent plus à la société. Il y a des personnes qui sont choquées, par exemple, de dire ben, dans un couple homo, pour le dire comme ça, qui fait l'homme, qui fait la femme. On peut dire la même chose dans un couple hétéro aujourd'hui. Qui fait l'homme, qui fait la femme, parce que ça n'a pas de sens. Ça n'a plus de sens.
Si le vote paraît acquis avec près de 67% des votants qui se disent en faveur du oui, la campagne a quand même eu son lot de polémiques. La droite populiste qui s'oppose au texte a encore une fois mené une campagne dure à coups d'affiches choquantes, montrant par exemple des enfants en pleurs avec des étiquettes attachées à l'oreille comme s'il s'agissait d'articles en vente. On a aussi eu droit à des images de zombies dignes de films d'horreur sur lesquels était inscrit « enfant avec un mort, non ». Car le texte soumis au vote ce dimanche doit autant permettre de légaliser le mariage pour tous que d'ouvrir la procréation médicalement assistée aux couples de lesbiennes, ce que ne veulent pas les opposants qui estiment que la PMA nuirait gravement aux enfants privés de père. Cet argument, partagé par l'Église catholique suisse, Jean Lannoy le rejette en bloc parce qu'il ne correspond pas, dit-il, à la réalité.
Le modèle patriarcal n'est pas le modèle. Moi, j'ai déjà constaté des enfants très heureux dans des couples homo et des enfants très malheureux dans des couples hétéros. Et donc, en fait, je pense que ce que nous avons vécu dans l'Église catholique chrétienne est en train de se produire dans d'autres églises. Quand on parle avec les orthodoxes ou quand on parle avec les catholiques romains notamment, il y a une frange de leurs membres qui dit « Non, l'autorité pense ça, mais nous, on pense autrement. »
Cette rupture entre un clergé plutôt conservateur et des fidèles plus ouverts sur les questions de mœurs semble se vérifier dans les sondages. On estime que près de 70% des catholiques suisse devrait dire oui au mariage homosexuel civil dimanche prochain.
Accent d'Europe à la réalisation Françoise Grelot. Vous retrouvez le podcast de l'émission sur RFI.fr ou sur votre plateforme d'écoute préférée. À bientôt.